Bonjour, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 13h. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, annonce un plan à plus de 1 milliard d'euros. Objectif, soutenir les agriculteurs touchés par la sécheresse et la canicule. Il faut une gauche unie pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. La cofondatrice de l'Après, Danielle Simonet, appelle Jean-Luc Mélenchon à s'ouvrir et accepter un rassemblement plus large. Déjà fragilisé par la guerre à Gaza, les relations entre Israël et ses alliés européens se dégradent face à la multiplication des colonies et des violences en Cisjordanie occupée. À suivre. Traiter l'urgence, éviter des faillites et redonner de l'espoir aux agriculteurs, c'est l'objectif du plan climat, adaptation, sécheresse et incendie présenté ce matin par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Des annonces très attendues par le monde agricole, il faut le dire. Au total, plus d'un milliard d'euros vont être mobilisés. Un effort massif dans le contexte budgétaire, a-t-elle expliqué. Justement, on écoute la ministre.
L'été que nous venons de traverser est l'un des plus rudes que notre agriculture ait connu depuis plusieurs décennies, infligeant à nos agriculteurs, à leurs troupeaux, à leurs récoltes, des pertes considérables, menaçant même la prochaine campagne. C'est pourquoi, face à cette situation exceptionnelle, je vous annonce que le gouvernement débloque plus d'un milliard d'euros dans le cadre d'un plan de soutien et de réarmement agricole, plan territorialisé et décliné au plus près du terrain, dans l'Hexagone, comme aux Antilles. Il poursuit deux objectifs. Le premier, c'est d'indemniser vite, très vite, pour qu'aucune exploitation ne tombe faute de trésorerie. En particulier, l'indemnisation de solidarité nationale qui couvre une partie des pertes sera abondée autant que de besoin. Ces besoins à date sont déjà estimés à plus de 500 millions d'euros. Le dégrèvement de taxes foncières sera également activé partout où cela sera nécessaire sur l'ensemble du territoire pour plus de 300 millions d'euros. Le deuxième axe du plan, c'est de renforcer dès à présent notre production en donnant aux agriculteurs les moyens de s'approvisionner en plants, en engrais, en fourrage, en semences. C'est pourquoi nous mettons en place un fonds de 235 millions d'euros qui sera décliné dans chaque département. Chaque filière, chaque territoire étant différent, l'aide sera adaptée aux besoins locaux. Ce fonds permettra d'assurer la campagne de production prochaine et d'éviter une perte de souveraineté agricole. Il sera piloté par les préfets et comportera un volet incendie. À cela s'ajouteront des prises en charge de cotisations sociales pour au moins 20 millions d'euros. Aussi, pour continuer de protéger nos agriculteurs, nous prolongeons jusqu'à la fin de l'année l'aide qui permet d'acheter des engrais, soit 145 millions d'euros au total, et nous prolongeons de 2 mois l'aide pour l'achat de carburant pour plus de 100 millions. Par ailleurs, j'ai demandé une réduction du nombre de contrôles liés à la PAC chaque fois que c'est compatible avec nos engagements européens. Ce plan massif et inédit de plus d'un milliard d'euros est un effort important de la nation, de chaque Français, pour nos agriculteurs. Il a été construit au fil des remontées de terrain, en lien étroit avec les agriculteurs. Il s'ajoute à toutes les dispositions que j'ai prises cet été, notamment pour déroger à certaines règles devenues inapplicables en temps de sécheresse. Je veillerai personnellement à ce que ces aides se déploient vite, très vite, jusque dans vos exploitations.
C'était Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Le maire socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, et sa prédécesseur Anne Hidalgo, visée par une plainte d'une quinzaine de familles parisiennes. Ces familles veulent interroger leurs responsabilités dans le scandale du périscolaire à Paris. Ils demandent à la justice d'examiner ce que ces responsables savaient des dysfonctionnements dans le périscolaire parisien et sur leur absence d'action supposée. La plainte évoque la mise en danger délibérée d'autrui, la non-assistance à personne en danger et la non-dénonciation d'infractions sur des enfants. La liste des candidats aux primaires s'allonge à nouveau. C'est à présent Emmanuel Morel, ex-chef de file de l'aile de gauche socialiste, qui annonçait être candidat à la primaire organisée par le Parti Socialiste et Place Publique. « Je serai candidat pour porter une voix singulière », a-t-il expliqué chez nos confrères de France Info. Pour pouvoir empêcher l'extrême droite de gagner lors de la présidentielle dans 8 mois, en France, il faudrait que la gauche soit unie. Les mots de la députée Danielle Simonet, la cofondatrice de l'Après, un mouvement créé par les ex-cadres de la France Insoumise, lance un appel à Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute.
Il faut absolument qu'il réoriente sa campagne pour montrer qu'il est en capacité de rassembler, de ne pas être le solitaire sectaire et de montrer qu'il est à la hauteur des enjeux, ce qu'aurait fait un Mitterrand, lui qui prend souvent Mitterrand comme référence. Et moi, je suis très inquiète parce que pour l'instant, il donne lorsque vous avez des personnalités comme Sandrine Rousseau ou comme Marine Tondelier qui envoient des gestes, eh bien, grosso modo, il dit, et puis il le dit pareil pour le NPA, vous prenez mes affiches, vous les collez, vous prenez mes tracts, vous les distribuez. En gros, c'est ça ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à rassembler, à fédérer. Or,
sachant
si on veut la gagne...
Oui, mais justement, ces personnalités se rallieraient à lui s'il arrive au second tour. Vous, par exemple...
Je vais vous dire une chose.
Vous
regardez les élections. Regardez les élections municipales. Les élections municipales, nous, on a plaidé pour qu'il y ait des listes de rassemblement les plus larges possibles. Bien. Et on voit que les alliances de deuxième tour, c'est-à-dire à l'arrache... Quand il ne reste plus qu'une semaine, bon, pour la présidentielle, il peut rester deux semaines, ça n'entraîne pas la même dynamique et que vous perdez beaucoup d'électrices et d'électeurs en route. Alors que si vous créez un cadre unitaire bien plus en amont, vous pouvez non seulement rassembler tout votre camp pour être assuré d'être au deuxième tour, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui, mais surtout être en capacité après d'aller au-delà dans la captation de la confiance du peuple français pour pouvoir empêcher Marine Le Pen de l'emporter. Donc, un peu d'humilité de la part de Mélenchon qui aujourd'hui est en tête. Si c'était un autre qui était en tête, je dirais la même chose.
On comprend, grosso modo, Daniel Simonet, c'est important de parler du fond, du programme.
Moi, je suis attachée au programme du Nouveau Front Populaire et du programme du NFP.
Et donc du programme de la France Insoumise.
Donc, le programme... J'étais à la France Insoumise, j'ai participé à ce programme.
Et donc, vous voteriez Jean-Luc Mélenchon.
Moi, j'assumerai toujours mes responsabilités pour empêcher l'extrême droite de l'emporter. Donc, si c'est le butin de vote de Jean-Luc Mélenchon qui est le plus efficace, je le prend sans problème. Par contre, je dis, si on veut gagner, Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin de personnes qui sont ralliées à lui. Il a besoin de partenaires respectés.
Jean-Luc Mélenchon, que vous qualifiez de harceleur
bien sûr.
Moral.
J'ai énormément...
Un président de la République harceleur moral, c'est pas un problème.
J'ai énormément de désaccords et j'ai énormément de sujets sur lesquels j'ai subi le dysfonctionnement interne de la France insoumise dont Jean-Luc Mélenchon est directement responsable. Et pour autant, je sais ce qui se présente face à nous.
C'était Daniel Simonet, député du 20e arrondissement de Paris. Elle sera l'invitée de François-Xavier de Calonne ce soir à 19h dans votre émission Plurielle. À l'étranger, à présent déjà fragilisé par la guerre à Gaza, les relations entre Israël et ses alliés européens se tendent face à la multiplication des colonies et des violences en Cisjordanie occupée. La France a notamment appelé même l'Union européenne à mettre fin, je cite, au commerce avec les colonies illégales en Cisjordanie. Les précisions avec vous, Nawal Alamouchi.
Et oui, dans un contexte de tension entre Paris et Tel Aviv sur le dossier de la Cisjordanie, la France a une nouvelle fois appelé l'Union européenne à mettre fin au commerce avec les colonies illégales en Cisjordanie et s'est dit scandalisé par la situation dans ce territoire occupé par Israël depuis 1967. Je vous laisse écouter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui s'est exprimé à ce sujet cette semaine.
L'explosion de la violence provoquée par les colons extrémistes en Cisjordanie qui par leurs activités, par leurs actes de terreur, menacent non seulement la solution à deux États, portent une atteinte inacceptable à la dignité du peuple palestinien, mais hypothèquent la sécurité d'Israël lui-même ainsi que la sécurité de la région. Dans ce contexte, nous plaiderons pour que des sanctions soient prises, de nouvelles sanctions, à l'encontre des responsables de la colonisation et de ses violences. Et je rappellerai, comme nous l'avons fait avec la Suède avant l'été, que l'Union européenne, qui a la compétence en matière de commerce, ne peut se résoudre à ce que les produits issus des colonies illégales en Cisjordanie entrent illégalement sur le territoire de l'Union européenne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit là de territoires qui sont illégalement occupés et que l'Union européenne ne peut, par son commerce, soutenir cette activité illégale.
Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, et il avait déjà plaidé à plusieurs reprises pour un renforcement des sanctions européennes contre les responsables de ces violences. En début de semaine, c'est Londres qui a dénoncé les attaques, je cite, « effroyables » menées par des colons israéliens contre des Palestiniens et a promis de dévoiler des mesures dans les semaines à venir. Selon les analystes, les futures mesures britanniques devraient viser en priorité les individus et les organisations impliquées dans la colonisation plutôt qu'Israël et son gouvernement dans leur ensemble. Et il faut le savoir, l'Union européenne reste le premier partenaire commercial d'Israël. Reste que si des pays comme l'Irlande et l'Espagne ont déjà pris des mesures contre les échanges avec les colonies israéliennes, une interdiction à l'échelle de l'Union européenne nécessite l'accord de tous ses membres, ce qui est très loin d'être le cas. Mais prendre des mesures contre Israël paraissait totalement impossible. impensable il y a encore 4 ans, souligne un diplomate européen basé à Tel Aviv. Mais le curseur a clairement bougé depuis le début de la guerre qui a ravagé la bande de Gaza et le niveau inédit de violence commise par les colons en Cisjordanie, selon lui. Mais le scrutin d'octobre en Israël pourrait retarder toute annonce forte. Plusieurs pays européens redoutent en effet d'être accusés d'ingérence par Benjamin Netanyahou, ce qui pourrait notamment le renforcer aux élections.
Merci beaucoup Nawel Alamouchi. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, la guerre russo-ukrainienne. Volodymyr Zelensky espère une visite à Kiev des émissaires de Donald Trump dans les prochains jours. Objectif, trouver une issue à la guerre. Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs affirmé qu'il n'existait actuellement aucun plan de mobilisation en Russie pour son offensive en Ukraine. En Tunisie, à présent, les condamnations dans l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État sont désormais définitives. La Cour de cassation a rejeté hier le pourvoi d'une trentaine de personnes, parmi lesquelles des figures de l'opposition, des avocats et d'anciens responsables politiques. Salma Darlaoui.
Oui, Wallis. Alors tout d'abord, rappel des faits, ces personnalités avaient été accusées de complot contre la sûreté de l'État. En novembre 2025, la Cour d'appel de Tunis avait confirmé les peines allant jusqu'à 45 ans de prison. Parmi les personnes incarcérées dans ce dossier figurent l'opposant Ahmed Najib Chebbi, l'avocat Ayashi Hamami, le responsable du parti islamiste Nahda Abdelhamid Jlassi, l'ex-ministre centriste Razi Shawashi et la militante Shaima Issa. Les autorités les accusent d'avoir voulu déstabiliser l'État. Les condamnés contestent ces accusations. Le rejet du pourvoi rend les condamnations définitives. Selon la fille d'Ahmed Najib Chebbi et avocate Haifa Chebbi, elle dénonce auprès de l'AFP une affaire politique instrumentalisée par l'État. Selon les opposants au pouvoir, c'est une affaire politique destinée à faire taire les voix critiques. L'ONG Amnesty International estime que le procès a été entaché de violations des garanties d'une procédure régulière et appelle à la libération des détenus.
Merci beaucoup Salma Darlaoui. Et puis enfin, pour conclure ce journal, un point sur la météo. Le retour de la canicule sur une bonne partie du pays. 5 départements du sud de la France sont placés en vigilance orange canicule aujourd'hui par Météo France. L'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard ou encore l'Hérault. Et avec cette canicule, le risque d'incendie est toujours très élevé. En Ardèche, un feu de forêt progresse depuis hier. Il a déjà ravagé 50 hectares. Des centaines de pompiers sont mobilisés. Des habitants et des vacanciers ont même été évacués. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Radio Orient. Il est 13h12. Excellente suite des programmes.